VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du mardi 25 août 2015. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Tout d'abord les titres.
La médiation internationale au Mali lance un appel aux groupes armés du Nord.
Le gouvernement burkinabé annonce une récente attaque par des inconnus à Orsi, localité frontalière du Niger et du Mali.
En Guinée-Bissau, les députés ont adopté hier une résolution demandant le départ du nouveau Premier ministre.
L'émissaire des Nations Unies pour la Somalie critique la tentative de certains législateurs de destituer leur président Hassan Sheikh Mahmoud.
Baisse de 4% à la bourse de Shanghai ce matin, mais les autres marchés asiatiques ont affiché de nets rebonds.
Quelques-uns des titres que nous allons développer et ne manquez pas notre rubrique La Minute Éco, ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. Nous commençons par le Mali où la médiation internationale conduite par l'Algérie appelle les groupes armés qui sont récemment affrontés dans le nord à revenir à leur position avant ces combats et à libérer leurs prisonniers. Pour sa part, la CMEA, coordination des mouvements de l'Azawad, qui a suspendu sa participation au comité de suivi de l'accord d'Alger, a précisé lundi ses conditions pour revenir dans ce processus. De Bamako, compte rendu de Kassim Traoré.
Les ex-rebelles, en quittant la salle, veulent rester dans la dynamique de la paix. Ils estiment que la situation dans la localité d'Anéfis est inacceptable, d'où leur demande de retrait des combattants de la plateforme de cette localité stratégique. La CMA demande la libération des prisonniers capturés lors des combats d'Anéfis. Ils souhaitent qu'une session spéciale du comité de suivi soit consacrée à la résolution des récents combats dans la région de Kidal. Après leur retrait, le comité de suivi a fait un débat général sur la situation d'Anéfis. Un comité ad hoc a été mis en place. Ce comité doit aller à la rencontre des différentes parties sur place afin de trouver des solutions en vue de débloquer la situation. La médiation internationale de son côté demande aux parties concernées de retourner aux positions qu'elles occupaient à la date du 20 juin 2015 et à poursuivre la mise en œuvre des mesures de confiance, notamment la libération des personnes détenues à l'occasion de ces événements. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, le gouvernement a annoncé hier dans un communiqué qu'une brigade de gendarmerie a été attaquée par des inconnus dimanche nuit à Oursi, localité du Nord, frontalière du Niger et du Mali, faisant 2 blessés dont un gendarme. Les détails avec Henri Francisque.
Selon le communiqué transmis à l'AFP, cette attaque a blessé grièvement un gendarme en service et la fille du commandant de brigade. Les autorités burkinabées affirment avoir donné l'alerte et déployé les forces de défense et de sécurité en vue de retrouver les auteurs pour qu'ils répondent de leurs actes. Le gouvernement a condamné fermement cette attaque et appelé la population au calme, déclarant que toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Un pistolet automatique, des munitions et du matériel dont la nature et la quantité n'ont pas été précisées ont été emportés par les assaillants, a indiqué à l'AFP une source sécuritaire sous couvert d'anonymat. C'est la première fois qu'un poste tenu par les services de sécurité fait l'objet d'une attaque dans le Sahel burkinabé, frontalier du Niger et du Mali. Début avril, le chef de sécurité roumain de la mine de manganèse de Tambao, située dans la même région du Sahel, avait été enlevé par des assaillants. Cet enlèvement a été revendiqué par le groupe islamiste Al-Mourabitoun du chef djihadiste Mokhtar Belmokhtar. Ce fut le premier rapt d'un ressortissant occidental jamais opéré dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, qui a été impliqué ces dernières années dans les négociations pour des libérations d'otages et dans la médiation de la crise Touareg malienne.
Au Nigeria, le gouvernement affirme qu'il n'est pas en train de livrer une chasse aux sorcières contre les responsables de l'administration de son prédécesseur Goodluck Jonathan, alors qu'il poursuit sa campagne contre la corruption. Dernier cas en date, l'inculpation d'un officier pour possession illégale d'armes, chérubin Dorcel.
Il s'agit du colonel Sambo Dasuki, ancien responsable du Conseil de sécurité nationale du Nigeria. Le département de la sécurité d'État du pays, le DSS, a annoncé hier lundi que la mise en accusation de M. Dasuki découle de perquisitions effectuées en juillet dernier dans trois de ses propriétés et qui ont permis de découvrir, entre autres, sept armes à feu de gros calibre, des équipements de type militaire, 12 véhicules neufs, dont 5 blindés. Le communiqué du DSS dément coup de chasse aux sorcières. Pour rappel, le colonel Sambo Dasuki figurait il y a 30 ans parmi les officiers qui avaient arrêté l'actuel président Muhammadu Buhari lors d'un coup d'État. À son retour au pouvoir en mai dernier, Buhari a révoqué Dasuki de son poste de conseiller à la sécurité nationale qu'il occupait depuis 3 ans. Une affaire à suivre.
Les députés en Guinée-Bissau ont adopté lundi une résolution demandant le départ du nouveau Premier ministre par des moyens légaux pour résoudre la crise politique née de la dissolution controversée du gouvernement par le chef de l'État. Après 12 heures de débat intense à l'Assemblée nationale, les députés ont adopté une résolution où ils expriment leur désaccord avec la nomination du Premier ministre Bassirou Dia, décidée la semaine dernière. Ils entendent tenter des actions en vue de la destitution du nouveau Premier ministre. Rappelons que le 12 août, le président José Mario Ovache avait limogé Domingos Simões Pereira en poste depuis 14 mois en arguant d'une crise de confiance au sommet de l'État.
L'émissaire des Nations Unies pour la Somalie, Nicolas Kay, critique la tentative de certains législateurs somaliens de destituer le président Hassan Cheikh Mahmoud, une situation qui fait craindre pour les élections somaliennes de l'année prochaine. Précision de Lionel Gahima.
Dans une interview à la VOA, l'émissaire spécial onusien a dit que l'ONU reconnaît à tout parlement le droit de demander des comptes aux dirigeants, mais la Somalie ne peut pas se permettre une autre crise politique. Le Conseil de sécurité de l'ONU a exprimé une position très claire, à savoir que la Somalie doit amorcer un processus électoral en 2016 et n'est pas prolongée de mandat. Et de mon point de vue, il est difficile de voir comment une procédure de destitution permettrait d'atteindre ces objectifs, étant donné le retard et la crise prolongée qu'elle provoquerait. La crise actuelle est née des accusations de certains législateurs que le président Hassan Cheikh Mahmoud n'a pas réussi à maîtriser la situation sécuritaire et mettre un terme au meurtre de plusieurs membres du Parlement par Al-Shabaab. L'émissaire onusien Nicolas Kay a exhorté les institutions gouvernementales somaliennes à continuer de fonctionner et de travailler sur leurs priorités, comme la révision constitutionnelle qui, a-t-il dit, est essentielle à l'édification de l'État et la bonne gouvernance.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La bourse de Shanghai a dégringolé de 4% mardi au lendemain de sa plus forte chute en 8 ans, toujours minée par les inquiétudes persistantes sur l'économie chinoise, la deuxième du monde, mais les autres places asiatiques résistaient, rebondissant nettement après leur plongeon de la veille. La déroute des places chinoises a largement alimenté lundi une journée noire pour les marchés financiers mondiaux qui se sont écroulés de concert dans un climat de panique générale. Mais les marchés asiatiques affichaient de nets rebonds aujourd'hui. De même, les cours des matières premières se ressaisissaient après leur accès de faiblesse de la veille, le prix du pétrole progressant notablement.
Et puis apaisement diplomatique entre les deux Corées. Un accord a été trouvé tôt mardi matin à l'issue de négociations marathon, accord qui désamorce les tensions qui ont failli précipiter la péninsule dans un conflit armé. Une nouvelle saluée par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et par Washington. Claire Morin-Gibourg.
C'est exceptionnel, la Corée du Nord a accepté d'exprimer des regrets exigé par Séoul. Des regrets pour l'explosion au début du mois d'août d'une mine antipersonnel à la frontière qui a mutilé 2 soldats sud-coréens. En contrepartie, la Corée du Sud a coupé ses haut-parleurs qui diffusent à plein volume leur message de propagande à la frontière. Et les deux parties ont également convenu d'œuvrer vers une reprise le mois prochain des réunions des familles séparées par la guerre de Corée dans les années 50. L'accord qui semblait couvrir tous les contentieux importants entre les deux pays a été conclu à l'issue de négociations ardues. Techniquement, les deux pays sont en conflit depuis 65 ans, car la guerre de Corée a pris fin avec un simple cessez-le-feu qui n'a jamais été formalisé par un traité de paix en bonne et due forme. Une situation surveillée de près par la communauté internationale. Les États-Unis, qui disposent de quelque 30 000 militaires en Corée du Sud, avaient invité Pyongyang à la retenue. Et la Chine, principal soutien de la Corée du Nord, avait également lancé des appels au calme.
Un millier de migrants ont poursuivi lundi leur marche vers l'Europe occidentale en entrant en Hongrie au moment où à Berlin, le président François Hollande et la chancelière Angela Merkel plaidaient pour une réponse unifiée de l'Union européenne à l'afflux sans précédent de réfugiés sur le continent. Au moins un millier de personnes venant de Serbie, parmi lesquelles de nombreux Syriens, ont franchi la frontière hongroise en passant par une voie ferrée transfrontalière près du village hongrois de Rosk, a constaté un photographe de l'AFP. Ce passage en Hongrie, pays de l'Union européenne, s'est effectué quelques jours avant l'achèvement de l'installation de la barrière destinée à empêcher l'arrivée des migrants par cette frontière annoncée pour le 31 août par le gouvernement de Budapest. Et maintenant, la Minute Éco avec Jean-Roger Bion.
Les cours du pétrole ont perdu lundi plus de 6% de leur valeur et touché de nouveaux creux en 6 ans et demi. La chute des cours du pétrole s'explique essentiellement par le déséquilibre entre une offre abondante et une demande à tonnes. L'abondance de l'offre résulte de la conjonction entre le boom du pétrole et du gaz de schiste en Amérique du Nord et la décision de l'OPEP réaffirmée début juin de ne pas baisser sa production. La demande continue parallèlement de se ralentir, notamment en Chine, deuxième consommateur mondial de brut. La monnaie sud-africaine, le rand, a atteint son plus bas niveau historique hier face au dollar et à l'euro dans un contexte globalement difficile pour les devises émergentes. Le rand, sous pression depuis plusieurs semaines, fait partie des monnaies les plus touchées par l'incertitude des marchés face au ralentissement de la croissance en Chine et face à la politique monétaire américaine. La dépréciation du rand complique la tâche de la Banque centrale car elle devrait accentuer l'inflation qui a atteint 5% sur un an en G en Afrique du Sud, tandis que la croissance demeure trop faible pour résorber un chômage chroniquement élevé. L'Afrique du Sud à la conquête des investisseurs japonais. Le vice-président Cyril Ramaphosa effectue une visite d'affaires au pays du Soleil Levant avec une forte délégation. Ils auront 4 jours pour inciter les hommes d'affaires japonais à investir en Afrique du Sud. Par ailleurs, le vice-président sud-africain va prendre part au Forum des affaires pour l'Afrique du Sud et aura une rencontre avec le vice-président de l'importante compagnie Jetro, Tomiyasu Nakamura.
À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa.
Afrobasket 2015.
Oui, dans le groupe B, le Maroc a été battu par le Mozambique 85-82.
Et le Sénégal a battu l'Angola 74-73.
Dans le groupe D, victoire du Cap-Vert sur le Zimbabwe, 76-65. Et les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu l'Algérie, 81-74.
En football, y a-t-il crise à la fédération malienne?
Oui, selon Foot Africa 365, à l'initiative d'un collectif de dirigeants membres de la Fédération malienne de football, une assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour dimanche prochain. À l'ordre du jour figure notamment la révocation de l'actuel président de la fédération. Il n'est pas sûr que cette assemblée générale soit validée.
Corruption à la FIFA, une décision de la justice helvétique en septembre.
Oui, le ministère suisse de la justice étudiera le mois prochain les demandes d'extradition formulées par les États-Unis à l'encontre des 6 anciens responsables de la FIFA, englués dans un scandale de corruption, a annoncé lundi un porte-parole de la justice. La police suisse détient 7 anciens responsables de la FIFA à Zurich depuis le mois de mai dernier dans le cadre d'une enquête de grande ampleur initiée par la justice américaine. Jeffrey Webb, originaire des îles Caïmans et ex-vice-président de la FIFA, a lui accepté son extradition aux États-Unis en juillet dernier.
Athlétisme.
La Kenyane Viviane Cheruiyot, déjà multimédaillée, a reconquis le titre du 10 000 mètres des mondiaux d'athlétisme en 31 minutes 41 secondes 31 tièces, devançant l'Éthiopienne Gelete Burka et l'Américaine Emily Infeld.
Enfin, cyclisme.
Le Slovaque Peter Sagan a remporté lundi la troisième étape du Tour d'Espagne entre Mijas et Malaga. C'est sa première victoire sur un grand tour depuis plus de deux ans. Le Colombien Esteban Chavez conserve, lui, le maillot rouge de leader.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les Burundais se sont rendus aux urnes hier pour élire leurs chefs locaux qu'on appelle dans ce pays des collines les conseillers collinaires. Selon le code électoral burundais, les partis politiques n'entrent pas dans la course. Les candidats doivent être des indépendants. Mais malgré cette spécificité, l'opposition conteste la crédibilité du vote. VO Afrique a joint Tatien Sibomana, porte-parole du parti Uprona de l'opposition.
Les élections collinaires consistent à désigner les chefs de colline ou de quartier. Et dans la même logique, on élit cinq personnes qui constituent le conseil collinaire. Cinq personnes élues au suffrage universel direct. Ce qui fait que celui qui totalise le plus de voix parmi les cinq personnes à élire devient directement le chef de colline ou de quartier.
Est-ce que les partis politiques sont réellement impliqués dans ces élections? Faut-il avoir une casquette politique pour briguer un mandat collinaire?
Normalement, au niveau du code électoral, c'est bien précisé que ces cinq membres des conseils collinaires ne sont pas élus sur base des listes des partis politiques, mais plutôt ils sont élus au titre d'indépendants. Mais malgré tout, on le sait, et ce n'est un secret pour personne, le parti CNDD-FDD fait tout pour que les Imbonerakure soient élus et soient les seuls membres de ces conseillers collinaires. Et c'est une violation toujours de la loi.
Et quelle sera la valeur de ces élections dans le prolongement des élections qui ont été boycottées et contestées par l'opposition?
Le processus électoral étant unique, s'il a été déjà faussé dès le départ, tout doit être remis en cause. Donc, les revendications de l'opposition restent toujours les mêmes. On cherche à remettre en cause tout le processus de fond en comble et reconvoquer de nouvelles élections et présider et organiser par une CENI réellement indépendante. Bien sûr, quand je parle de CENI, je parle aussi de ses démembrements, à savoir les CEPIS et CECI. Et ce sont les CECI qui organisent justement ces élections collinaires. Et comme vous le savez, ceux-ci n'ont pas été composés dans l'esprit d'indépendance que nous avons toujours voulu que le principe soit celui-là même qui guide la CENI et ses démembrements.
Quelles seraient les relations entre les chefs collinaires qui vont être élus, les diriger dans un climat de méfiance comme celui du Burundi?
Bien sûr que le climat ne sera pas sain. Si vous savez très bien que la grande majorité du peuple burundais n'a pas participé à ces élections, il est normal que les élus locaux ou collinaires n'auront pas la tâche facile parce que la population aura tendance à les rejeter parce qu'elle n'aura pas participé à leur élection.
Tatien Sibomana de l'Uprona, joint à Bujumbura par Eric Manirakiza.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi, plein feu sur l'African Growth and Opportunity Act, l'AGOA, qui fête ses 15 ans. Le Gabon accueille cette semaine le forum sur cette loi américaine qui encourage les exportations. Quels ont été les apports de l'AGOA? Comment les entreprises africaines peuvent en tirer davantage profit? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Revenons maintenant sur la visite du secrétaire général de l'ONU au Nigeria au 4e anniversaire de l'attentat suicide des islamistes de Boko Haram contre le siège des Nations Unies à Abuja. Arrivé dimanche, Ban Ki-moon, dont c'est le second séjour depuis cette tragédie, a rendu hommage hier aux 23 personnes tuées dans l'attaque. Il a eu des entretiens avec le président Muhammadu Buhari et divers autres responsables nigériens. Pour faire le point, Timothée Donangmai a joint le professeur Ali Buhari de l'Université d'État de Nassarawa à Kefi, près d'Abuja.
Le Nigeria est un pays de la ligne du front au sein du continent africain. Donc chaque fois qu'on reçoit un grand visiteur auguste tel que les chefs des Nations Unies, ça rend plaisir à la totalité des Nigériens.
On attend toujours l'offensive régionale contre Boko Haram. Qu'est-ce qui cloche?
L'offensive générale se poursuit. Bon, malgré quelques retards au niveau de l'établissement du haut commandement de cette force multinationale à N'Djamena, mais le problème a dû être résolu la semaine écoulée. Et bientôt, le siège du haut commandement de cette force multinationale sera bien placé à N'Djamena, au Tchad.
Avec cette visite du secrétaire général de l'ONU au Nigeria, qu'est-ce que Abuja peut attendre des Nations Unies comme appui dans cette lutte?
Au dire du patron des Nations Unies, les Nations Unies vont coopérer avec les Nigériens pour combattre ce fléau de Boko Haram et pour renforcer le développement. Donc, il s'est bien entretenu avec les 36 gouverneurs des États de la Fédération du Nigeria pour pouvoir voir comment les Nations Unies peuvent apporter son soutien pour le développement du Nigeria sur le plan économique et social. Et il a été aussi question de la lutte contre les polio au Nigeria. Le secrétaire général des Nations Unies a félicité les efforts déployés par les Nigériens pour combattre le fléau de polio.
Sur le front contre Boko Haram, le chef d'état-major nigérian a échappé au cours du week-end à une embuscade des insurgés islamistes.
Étant donné qu'il est le chef d'état-major de l'armée nigériane, il a rendu visite au front le long de la route menant la frontière entre le Nigeria et le Cameroun. Il a été victime d'une embuscade, mais au cours de cette embuscade, un soldat nigérien a été tué et environ une dizaine de blessés. D'après les rapports de l'armée nigériane, le terroriste de Boko Haram a subi une perte colossale.
C'était le professeur Ali Buhari de l'Université d'État de Nassarawa à Kefi, près d'Abuja.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Dix ans après l'ouragan Katrina qui avait dévasté la Nouvelle-Orléans et ses attractions de renommée mondiale, cette ville de l'État américain de la Louisiane a retrouvé son entrain d'antan. À preuve, son économie florissante attire aujourd'hui les travailleurs comme les touristes. Précision de Timothée Donangmai.
Chaque jour et durant toute l'année, les touristes arpentent les vieilles rues du célèbre quartier français de la Nouvelle-Orléans, où des concerts impromptus sont la norme, avec une combinaison d'images et de goûts à nul autre pareil. La ville revient de loin, car plusieurs mois après les inondations dévastatrices de Katrina en 2005, les hôtels et les restaurants étaient restés fermés, réduisant à néant les revenus du tourisme. Selon les responsables municipaux, les touristes sont de retour, et avec eux, l'âme de la Nouvelle-Orléans. Andy Copeland est le maire adjoint.
Nous avons eu
9,3 millions de visiteurs l'année dernière et nous continuons d'étendre ce marché. La Nouvelle-Orléans a abrité le Super Bowl 2013, la finale du championnat de football américain, et nous sommes une ville où un événement majeur se tient chaque week-end. Mark Romig est le responsable du tourisme de la Nouvelle-Orléans. Le tourisme est l'un des piliers de notre économie. Environ 80 000 personnes travaillent dans l'industrie touristique. Rien que l'année dernière, les dépenses des touristes se chiffraient à 6,8 milliards de dollars. Alors que 90% des touristes venant à la Nouvelle-Orléans sont des États-Unis, l'impact des visiteurs internationaux ne cesse d'augmenter, souligne Mark Romig. Nous constatons que le visiteur international reste généralement plus longtemps que le visiteur domestique et dépense peut-être plus. Après l'ouragan Katrina, certains visiteurs craignaient que la Nouvelle-Orléans ne se remette pas complètement de cette tragédie, mais le responsable municipal du tourisme souligne que la ville est connue pour sa résilience. À travers les tempêtes, le paludisme, les fuites de pétrole brut, la ville se relève toujours. Les gens déploient des efforts pour remonter la pente et c'est ce que nous aimons tant. Et quand un visiteur vient ici, il sent cet esprit et veut en faire partie. Mark Romig travaille déjà à la planification d'un événement qui illustrera l'histoire unique de la Nouvelle-Orléans, la célébration en 2017 du 300e anniversaire de la ville.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de VOA Afrique. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-85-40. Je répète, 225-58-92-85-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show, chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry. Me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary. When what deep in love? Yes, I know. Yes, I know. Girl, I know. She told me don't worry. When I'm with you.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Eh bien, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.